News FM, la radio culture urbaine de Grenoble.
Bonjour à tous auditeurs, bienvenue sur News FM, c'est Zoom au micro. Je suis accompagné de mon boy Sana à la technique.
Bonjour tout le monde.
Et écoutez bien, il a été tour à tour danseur, real b-boy, mannequin, rappeur, producteur, DJ, champion de jiu-jitsu. Et pour la culture hip-hop, un des pionniers du mouvement au cœur du réacteur. Si je vous dis HIPHOP, New York, Africa Bambata, terrain vague de la chapelle, Dina Style, Assassin, NTM, il y était. Nous recevons aujourd'hui Solo avec son livre intitulé
Note mon nom sur ta liste.
Yeah, welcome Solo, merci d'être là, c'est un honneur pour nous.
Merci, c'est un honneur pour moi.
Yes. Du coup, je vais commencer direct avec une question.
Allons-y.
C'est le titre du livre.
Note mon nom sur ta liste.
Mm-hmm.
Ben, c'est le titre du morceau, je dirais, légendaire du premier maxi d'Assassin. Titre que j'ai trouvé, c'était le début d'un de mes raps. Et quand on a fait cette maquette et qu'on a fait ce morceau, et voilà, il s'est resté. Voilà,
right.
Direct.
Quelle est la genèse de ce livre?
Qu'on arrivait à un point où c'était pour moi important et opportun de donner mon point de vue, puisque là, depuis, je dirais, quelques années, il y a pas mal de projets qui tournent autour de la genèse, justement, de pas mal de projets importants pour le hip-hop en France. Et chacun y est allé de sa version. Et je me suis dit que ce serait pas mal que moi je donne la mienne. Voilà.
C'est vrai qu'il y a eu énormément de choses. On est à 50 ans d'histoire du rap, depuis DJ Cooler, qui a eu des gros documentaires sur Netflix. Effectivement, beaucoup de livres qui sont sortis. Du coup, quand on reprend ton histoire, tu me dis si je me trompe.
Oui.
Tu découvres le rap avec le New York City Rap Tour.
Alors, je découvre pas le rap, je découvre la culture hip-hop avec le New York City Rap Tour, puisque c'est Alain Manval qui présentait en fait la culture à la France via TF1 et via son émission sur cette chaîne à l'époque, et donc présentait les différents éléments de la culture au travers de cette proposition artistique qu'était le New York City Rap Tour, où il y avait donc du graffiti, de la danse, du DJing, du MCing. Et donc moi j'ai regardé ce résumé de l'événement qui avait eu lieu à Paris. D'ailleurs il y en a eu deux, je crois, un à Pantin et un au pavillon Baltard, deux événements. Et donc j'ai regardé ce résumé, et c'est comme ça que j'ai découvert la culture hip-hop. J'avais déjà entendu du rap sans savoir que c'était du rap, quoique avec Rapper's Delight,
si. Rapper's Delight.
Mais par exemple, Curtis Blow, pour moi, c'était pas spécialement du rap, c'était de la funk. Mais en fait, on était déjà dans le rap et on était déjà dans le hip-hop. Mais je ne le savais pas encore.
Sachant que, donc, du coup, dans cette émission, tu vas découvrir le Rocksteady Crew,
ouais.
Mr Freeze,
ouais, ouais.
Et Africa Bambaataa.
Oui, Futura, Jamel Z, Fab Five Freddy, voilà. Tous ces gens-là étaient inclus à cette présentation, on va dire. Ce spectacle qui était une présentation de la culture hip-hop au travers d'un événement festif comme ils le faisaient pour eux tout le temps à New York, que ce soit au Roxy ou les Block Parties.
Et comment, de ce point de départ, tu arrives à la danse?
Eh ben, rien que je regarde ça et ça m'intrigue. Mais on va dire, je dansais déjà avant, mais je dansais pas hip-hop. J'étais pas dans le breaking ni dans le smurf, comme on l'a appelé en France. Mais je dansais et j'écoutais déjà quand même beaucoup de musique. Donc ce qui m'amène à la danse, c'est de les voir et d'être complètement surpris de ce qu'ils font.
Et comment tu vas arriver à rencontrer les membres du Paris City
Breaker? Ça, c'est un coup du hasard où, en fait, un jour, j'ai séché l'école parce que j'étais en BEP de compta. Et je suis allé traîner au Trocadéro, sur l'esplanade du Trocadéro, qui était quand même un des lieux de ralliement des gens qui kiffaient cette danse et les balbutiements de cette culture. J'étais allé traîner là-bas et ils sont passés par là, ils m'ont vu, j'étais en train de danser, plus ou moins m'entraîner et ainsi de suite. Et ils m'ont proposé d'aller faire un casting pour une émission de télé avec eux, pour aller danser dans une émission de variété. Et voilà.
Oui, émission de variété où tu en parles dans le livre, où tu dis que vous dansiez derrière Julien Clerc pour le morceau
Cœur de rocker.
Cœur de rocker.
Oui, comme quoi vraiment la France, on prend des smurfers pour aller mettre derrière un chanteur de variété dont le titre est Cœur de rocker. Va comprendre.
Mais ça a permis quand même à ta mère notamment de pouvoir te voir.
De me voir à la télé, oui.
Ou une matérialité de cette passion, peut-être.
On était vraiment déjà au tout début, donc c'était pas la matérialisation de cette passion, mais c'était déjà de lui dire que j'avais trouvé quelque chose à faire par moi-même. C'était un peu une surprise pour elle. Voilà. Donc c'était plutôt genre, ah bon, donc toi, tu me dis que tu vas passer à la télé. Ok.
Ben, ça rigole pas quand même.
Non, mais c'est une blague. Ben, justement, je pense que justement, si ça rigole, c'est tellement une blague qu'elle se dit est-ce qu'il a le culot de me raconter un crack pareil pour aller traîner? Donc, voyons voir. Ok, oui, donc tu vas passer à la télé. Ok, ben voyons voir. Ok. Elle m'a donné son accord. Chose qui. Tu vois, pour moi, c'était juste impossible. Et donc voilà, donc limite c'est une blague à la fin. Mais voilà, c'était le début de quelque chose qu'on ne soupçonnait pas. En tout cas, moi, je ne soupçonnais pas que ça pouvait évoluer comme ça.
Et du coup, comment on en arrive à l'émission et la rencontre avec Sydney?
Tout ça, c'est très. Ça s'emboîte, somme toute, assez facilement, puisque Scalp, un des Paris City Breakers, sa sœur, sa grande sœur, était la petite amie de Sydney. Donc, ce qui les a, eux, amenés aussi à la culture et ainsi de suite, c'est leur proximité avec Sydney, qui, donc, était quand même à la radio, à Radio 7, une des premières radios de la bande FM, où lui il avait une émission musicale, bien évidemment Black Music, et donc on se retrouve tous là, quoi. Et quand je dis on se retrouve tous là, c'est que le simili beau-frère de Sydney étant en fait un des membres de Paris City Breakers, puisque à l'époque il n'était que deux d'ailleurs, il n'y avait que Franck. Le breaker fou, Franck Delouise, le chorégraphe, qui est devenu chorégraphe par la suite, mais qui ne l'était pas encore, Franck Delouise et Scalp. Et moi, je suis le troisième qui intègre la chose. Et ensuite, il y en a un autre qui plus ou moins a intégré en même temps que moi, qui s'appelait Willy. Et un quatrième qui est venu un petit peu plus tard, qui était Nico. Nico, le fameux Nico, le danseur renommé, je dirais, européenne, et ainsi, et voilà.
Est-ce que c'est ça, notamment à travers ton histoire, vous allez un peu toucher l'Europe? Il y a des moments où vous allez danser au Royaume-Uni. Dans le sillage de ton histoire, Joey Starr est pas très loin, et il va aller notamment lui danser en Italie. Vous avez déjà un rayonnement un petit peu au niveau de l'Europe?
Alors, rayonnement, c'est un grand mot, c'est que on danse et on est tellement passionné qu'on est reconnu pour ça, mais ça reste encore quelque chose, je dirais, un petit peu presque sous le manteau. Et on se développe au travers de notre passion, en fait. C'est notre passion qui nous amène à voyager, dans le sens où, par exemple, en Angleterre, il y a Il y a un concert de Grandmaster Flash, et on sait que Grandmaster Flash avec les MC et ainsi de suite, il y aura des danseurs locaux qui seront là, quoi. Il y aura des breakers. C'est... Donc on se dit, on y va, comme ça on va voir des breakers et on va pouvoir aller se frotter à des breakers d'ailleurs. Et notamment Londres, pour nous qui était un pays anglophone, on les pensait beaucoup plus avancés que nous dans la culture. Et en fait, il s'est avéré qu'au niveau de la danse, c'est nous qui étions un peu devant. Et donc voilà, par exemple, on est allé à Londres pour ça. Après, eux, quand je dis eux, Nico et Joey ont eu des propositions d'aller danser en Italie et ainsi de suite. Mais par exemple, à ce moment-là, Joey est juste un camarade. Il n'est pas intégré à notre crew de danseurs. Mais comme on est quand même vraiment... On finit par vraiment être assez proches. Les deux, là, vont en Italie. Et effectivement, là, vraiment, eux se rapprochent quand même vraiment. Et puis, moi aussi, de l'autre côté, après, quand ils reviennent, du moins, Joey... qui ne s'appelait pas encore Joey Star à l'époque, revient en France. Je l'héberge quelques temps. Et enfin, on est très très proches. Et de là, effectivement, va naître beaucoup d'autres choses. Et quand je dis beaucoup d'autres choses, déjà une amitié vraiment assez profonde entre lui et moi. Et de ses connexions aussi, la connexion avec d'autres, notamment Squat. Les deux étant des taggeurs, et on peut le dire, des vandales invétérés. Voilà, ils finissent par devenir vraiment super proches, et ainsi de suite. Et je dirais que le goût prononcé pour le rap et l'écriture de Squat finit par déteindre quand même pas mal, autant sur Joey que sur moi. Et voilà. Et on va dire que c'est le début encore de quelque chose d'assez passionnant qui va nous amener, qui va m'amener moi à avoir l'idée de monter Assassin, et qui va donner l'idée à Joey de monter un groupe avec des gens de son quartier, donc de faire un truc avec Cool Chain, et au final. Leur histoire de tagueur vandale et ainsi de suite au travers des 93 MC et ainsi de suite de monter Supreme MTM. Voilà.
Parce que là on a fait un bond dans le temps, parce que avant,
oui.
Dans cette chronologie,
oui.
Tu pars à New York à l'été 84.
Oui.
Donc tu pars quand même
à la Mecque,
à l'épicentre.
La Mecque, on peut le dire comme ça.
Et ce que je trouve intéressant quand même, c'est par rapport notamment où tu vois que les Britanniques sont peut-être à un autre stade du hip-hop, c'est que toi, tu vas partir à New York, il y a Dynasty qui est parti aux États-Unis, il y a Akash qui aussi dès 82 va chez sa tante et rencontre quand même le hip-hop. Et cette interaction, cet échange entre New York et la France, qui est d'ailleurs par moments miroir, c'est quand même incroyable que pour nous, la chance en France a été, alors peut-être deuxième terre du hip-hop, mais qu'il y a eu cette relation, cette interconnexion entre New York et Paris et la France.
Ben,
c'est l'histoire.
Ouais, c'est la faute au hasard. Mais... j'aime à dire, parce que ça m'a été répété, c'est un dicton que je trouve qui est intéressant, c'est que le hasard, c'est la main de Dieu quand il veut rester anonyme. Donc, il n'y a donc pas de hasard. C'est l'univers, vraiment, voilà, les énergies, les interactions et ainsi de suite qui ont amené à des résultats plus qu'inattendus.
Avec cet inter-échange, parce que finalement des Américains venaient après en contrepartie, vous avez reçu à Paris.
Alors, Oui, je crois même que d'ailleurs ça a plutôt commencé par ça, parce que il y a tout un pan dont je parle pas trop et ainsi de suite, mais dès l'été 83, il y avait déjà des danseurs reconnus aux États-Unis qui étaient passés par Paris et qui avaient déjà fait des démonstrations. Donc je pense à Sugar Pop, Fable, Mr. Freeze, Sugar Pop, donc le danseur West Coast qui fait partie des Electric Boogaloos et qui est un danseur quasiment du début vraiment de toutes ces danses connotées hip-hop, en côte ouest, plutôt Los Angeles et ainsi de suite, qui était venu et qui avait dansé à Paris pendant l'été. Donc il y a des gens qui avaient été approchés ou mis en contact avec la culture hip-hop via la danse, au travers de ces danseurs-là qui faisaient des démonstrations, que ce soit au Trocadéro, aux Champs-Élysées, mais plutôt, je dirais, au Trocadéro et dans les Halles, à la Fontaine des Innocents. Il y a eu, pendant tout un été, ces gars qui étaient là et qui faisaient des démonstrations. Et je ne vais pas dire qu'ils faisaient la manche, mais qui faisaient passer le chapeau et ainsi de suite. Donc, qui se faisaient quand même de la thune à danser dans la rue, quoi. Des vrais danseurs de rue, quoi. En fait, voilà, c'est ça. On va dire, à Paris, il y a eu cette introduction à la danse hip-hop via ces gens-là. Déjà avant même que moi je le...
Tu partes là-bas.
Oui, ou que même je le perçoive. Mmh. Puisque je vois ce truc-là en 82 avec l'émission d'Alain Manval. Et ces gens-là, le même été, sont déjà là en train de danser et ainsi de suite. Mais comme je suis pas encore trop dans des allers-retours, ma banlieue et Paris, moi, j'y ai pas accès. Mais je sais qu'ils étaient là et que... ils ont dansé, que ça a touché beaucoup de gens. Donc, en région parisienne, la manière dont tout ça s'est développé, c'est quand même beaucoup passé par ces deux événements, le New York City Rap Tour et ces danseurs qui ont été là et qui, pendant l'été, ont, tous les petits jeunes qui étaient là, qui traînaient et ainsi de suite, les ont vus. Et ça a, je pense, inspiré beaucoup de gens. Je sais pas si Joey, lui, les a vus et ainsi de suite, mais je sais que ça a fait, ça a beaucoup fait parler. Voilà.
Yes. Parce que dans les allers-retours, tu vois, tu parles, tu dis banlieue, Paris, et puis t'as aussi fait pas mal d'allers-retours, je crois.
Paris, New York.
Entre 86 et 89, notamment.
Oui.
Et bah... avec la présence, parce que c'est marrant, tu parles donc de Rockin' Squad, donc aussi Mathias Cassel, mais dans ton livre, j'ai découvert ta relation avec son frère.
Mais c'est ma relation avec son frère qui amène au fait qu'on se connaisse.
C'est ça qui est intéressant. Je trouve des fois, on a l'impression que c'est un peu parachute. Enfin, j'ai découvert beaucoup de choses dans ce livre. Et ta relation avec Vincent sur ces trois années d'aller-retour à New York.
Mais carrément, c'est quelqu'un avec qui j'ai développé et approfondi mon amour du hip-hop et surtout de la grosse pomme de New York avec Vincent. Parce que il y avait quelque chose de magique dans la manière qu'on avait de découvrir cette culture. C'était pas juste quelque chose qui nous était présenté culturellement. On avait la chance de pouvoir le vivre vraiment de l'intérieur en étant présent à l'épicentre. D'aller dans les clubs qui étaient les clubs mythiques.
Roxy.
Voilà, Roxy, Daceterea, Negril, ce genre de choses-là. Paradise Garage, plus tard Sound Factory, tous les débuts de la house music, tous ces. C'est l'effervescence, je dirais, de. Je dirais la culture ghetto, mais au sens large, américaine. Et puis, bon, ne pas oublier que. Pour nous, petits Français, c'est la culture américaine. Donc c'était...
C'est un film en grandeur nature.
Et c'est le truc, quoi. C'est le dernier truc, le truc qui nous touche. On a grandi avec ça, quoi.
Mais quand même à une époque où New York est quand même une ville chaude. Ouais. Avec la déferlante du crack.
Alors ça arrive un poil après, et ça arrive à un moment où nous, en tout cas, on est déjà complètement immergés culturellement dans quelque chose. Le rap, la musique, les sapes, les donc tout cet aspect, je dirais, ghetto, délabré, et ainsi de suite, nous, on l'aperçoit pas. Et puis même pour nous, d'une certaine manière, c'est exotique. Ça reste exotique.
Même dans le Bronx.
Alors, mais carrément. Moi, avant de rencontrer Vincent, j'ai passé un mois dans le Bronx, et j'étais vraiment à l'épicentre, dans une cité, comme on les appelle en France, mais aux États-Unis, c'est les housing projects. Les housing projects de Monroe Projects dans le Bronx. Mais même pour moi, ça c'était exotique de me dire que j'étais là, mais c'était pas l'aspect du Bronx délabré comme on le voyait par exemple dans les clips de Grandmaster Flash et ainsi de suite,
c'est-à-dire 70.
Voilà, ouais. Les ruines et on est quand même en 84. Monroe Project, c'est des immeubles en briques rouges à peu près construits, avec des ascenseurs, avec des... Ça reste très très pauvre, mais il y a quelque chose quand même d'assez... je peux pas dire propre, parce que c'est pas le mot du tout, mais c'est pas le délabrement et le dénuement total. C'est pas ce qu'on voyait dans les clips. Même s'il y avait des endroits comme ça.
Il y avait existé.
Voilà. Il y avait un niveau d'insécurité au sein du projet de la cité. Le niveau de perception de tout ça n'est pas du tout le même que ce qu'on nous en raconte et comment on peut le vivre de l'extérieur. Mais effectivement, moi, quand je vais après à Manhattan, dans la diaspora française, les branchés, et ainsi de suite, je vois bien que...
Dans downtown.
Voilà, le downtown. Oui, on sent la différence entre le côté ghetto, des gens parqués entre eux, notamment les Noirs et les Portoricains, et les branchés, les gens... allez, les Blancs. Les Blancs d'un côté et les... Donc, mais moi, comment je le vis, tout ça, pour moi, quand même, ça reste exotique, quoi. Comparé... à ce que je peux voir à Paris ou ce que je peux voir en France, pour quelqu'un qui connaît un peu le côté ghetto de ce que les choses pouvaient être dans les années 80, Saint-Denis, La Courneuve, Nanterre, c'était quand même des endroits vraiment ghetto, quoi, qui étaient très ghetto et qui ressemblaient beaucoup à ce qu'on nous décrivait du Bronx. Donc quand j'arrive là-bas, je ne suis pas non plus dans un truc où on me dit dépaysé, où c'est le coup-gorge. Ce qu'on vit ici, nous, en tant qu'immigrés, ou les prolétaires vraiment des basses couches et ainsi de suite, ben, c'est la même chose en fait. Mais là-bas, aux États-Unis, et ce qui crée une grosse différence aussi, c'est que moi, je me rends compte que... Tous les Noirs sont des descendants d'esclaves. C'est quand même des choses qui, en tout cas, moi, petit immigré diaspora malienne qui vit en France et ainsi de suite, bon.
Sachant notamment dans le livre, il y a cette ligne qui m'a assez marqué où tu parles de ton arrière-grand-mère paternelle.
Oui, mais alors ça, c'est des histoires de classe aussi. Esclaves, quand on parle d'esclavage dans l'Afrique de l'Ouest et ainsi de suite, c'est pas obligatoirement et directement l'aspect esclavage des Blancs vis-à-vis des Noirs et ainsi de suite. Il y a un rapport de classe au sein des couches sociales africaines elles-mêmes. La caste des forgerons n'a pas accès à la caste de... et des... Donc c'est de ce genre d'esclavage-là dont il est question pour ma grand-mère. Mais moi, petit, quand on me dit oui, ta grand-mère a été esclave, ben, je me demande, mais esclave de qui? Pourquoi? Ah bon? Les blancs et les... Alors que ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste une situation de classe. Donc moi, quand j'arrive aux États-Unis, je suis quand même déjà imprégné de tout ça. Et ce qui m'étonne, c'est de voir que ces gens-là, là, par contre, pour eux, c'est une histoire de génération.
Un peu comme dans le livre d'Axel Allais,
Racine. Racine. Mmh. Voilà, et pourquoi je te parle de ça, c'est que une des choses que j'ai été autorisé à regarder à la télé quand j'ai été petit, ça a été le Racine.
La série télévisée.
La série télévisée Racine. Et j'étais très petit, parce que je pense que c'est quelque chose qui est sorti à la télé, je devais avoir entre 7 et 8 ans, entre 6 et 8 ans. Donc je suis imprégné aussi de ça. Où,
et des là, images fortes.
Voilà. Mmh. Et d'arriver dans un pays où je sais que les Noirs que je vois là, c'est les Noirs qui étaient tenus en esclavage par les Blancs.
Qui est très peu connu ici en France finalement. Tu vois, on le retrouve dans le livre de Taubiras, comme disait Sana, mais finalement, il y a très peu de gens qui ont conscience de ça, ici. En tout cas, c'était souligné, et j'ai trouvé ça, super, c'est souligné à ce moment-là. Je trouvais ça important.
Mais moi, ma perception, c'est que c'est une histoire vraiment commune. Et quand je dis commune... Tu vois, l'histoire de France... Le développement de ce pays, ensuite l'Europe, de voir que quand même dans les années 1800 et ainsi de suite, bon ben certains pays se rendent compte que c'est pas vraiment chez eux que ça se passe, et donc bon, ils vont ouvrir le spectre pour eux. Et ouvrir le spectre pour eux, ça a été de décider, bon, ben les pays là-bas, là, c'est là-bas qu'il y a vraiment les choses dont on a besoin, donc on va découper ça. Mais on ne leur a pas demandé leur avis. On n'a pas demandé l'avis des gens qui peuplaient l'Afrique.
Ils ont fait ça à la règle.
Mais ils ont fait ça à la... Ils ont dit, bon, ben, toi, tu prends cette partie, moi, je prends cette partie. Et... Donc, il y a une interaction qui est liée. Et ça, c'est des choses qui arrivent après ce qui s'est déjà passé, où on a exploité le peuple africain ou une partie du peuple africain au travers de l'esclavage. Donc... Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'interaction, et on est liés les uns aux autres. Moi, petit Français d'origine malienne qui va aux États-Unis pour découvrir une culture qui est construite de toutes pièces par des gens qui sont issus de l'esclavage et de... La chaîne, elle est tellement... que quand on prend conscience de ça, il y a...
C'est un cercle.
Mais il y a quelque chose qui demande à être compris aussi sur certains aspects qui réveillent, quoi.
Et comment cette conscience, tout ce qui te touche et l'histoire de ta vie, après, prend aussi forme en tant que rappeur au sein d'Assassin. On connaît la posture de Rocking Squat. Mais dans l'élaboration, la fondation du groupe Assassin, entre vos deux entités fortes sur la conscience politique.
Alors, ça c'est quelque chose dont je parle dans le livre, et où, selon moi, je remets les aiguilles là où elles doivent... Non, pas à l'heure, là où j'estime qu'elles doivent être. Mmh. Parce que tout ça, c'est une question d'interprétation et de vision. L'aspect politique, pour beaucoup... et de l'ordre de la posture. Il n'est peut-être pas aussi ancré qu'on pourrait se l'imaginer.
Intimement.
Mais j'ai pour habitude de dire que les actes parlent plus que les mots. Parler de choses, de positionnement et dans sa vie privée ou dans sa manière de se gérer dans ses interactions, être, je dirais quasiment, pour certains cas, à l'opposé de ce qu'on prône, ça peut être un peu... Donc, et aussi, quelque chose qui est en train de me revenir quand même depuis quelques temps, ne pas perdre de vue l'aspect du privilège. On ne s'en rend pas compte, et c'est au-delà du racisme et ainsi de suite, mais dans une entité multiculturelle comme la nôtre, assassin de l'époque, d'avoir le fils de Jean-Pierre Cassel qui fait des choses avec moi, nos buts, nos souhaits et ne sont pas les mêmes. Et donc, il y a des moments où il est opportun et important de prendre conscience du privilège. Et tout le monde n'a pas ce privilège. Et je crois que c'est ça qui a amené, en fait, qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes attentes, ni la même manière de se positionner. On ne pouvait pas, ça ne pouvait pas être comme ça. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a eu beaucoup de discussions autour de ma présence dans sur le premier album, du futur que nous réserve-t-il, et que je suis moins présent, et ainsi de suite. Et moi, je réponds plus ou moins dans le livre en expliquant que moi, il fallait que je travaille, il fallait que je fasse d'autres choses. Donc c'est à ce moment que entre en jeu cette affaire ou cette histoire de privilège. Moi, il faut que je travaille. Ouais. Je ne vis pas chez papa, maman.
T'as pas de mécène, hein.
J'ai eu non, mais je ne suis pas porté par un privilège. Le privilège d'être blanc et qui fait que si j'ai besoin de me loger, c'est pas trop compliqué. Moi, c'est compliqué pour me loger. Quand je vais me présenter, si j'ai pas de fiche de paye, si je suis pas ceci, si j'ai pas cela, c'est compliqué. Donc, ma gestion de mon quotidien a fait que j'étais moins présent, effectivement, dans la manière de faire les choses et dans la création. Et que, malheureusement, on ne m'a pas gardé ma place au show. On m'a pas gardé ma place au show.
Et en même temps, à cette époque-là, tu pars réétudier.
Ça, c'est un peu là, un peu après.
C'est un peu après.
C'est un peu avant que je pars étudier.
Que ça se passe comme ça.
Que quand je pars étudier, après la formule secrète, je reviens. Et quand je reviens, on commence à se développer et il faut avancer sur cet album. Et en même temps, moi, il faut que je travaille. Donc, je peux pas trop me permettre d'être partout en même temps. Et quand je reviens par exemple au studio et que j'écoute les morceaux que je trouve qui sont mortels et que je dis où est ma place pour mon couplet, on me dit non, mais en fait le morceau il est fini. Donc à ce moment là je me dis, à quel moment est-ce que on comprend que on n'a pas les mêmes attentes et surtout les mêmes besoins? Moi je peux pas passer ma journée là à ce moment là Parce qu'il y a eu d'autres moments où, effectivement, j'ai sûrement été dilettante et tout ce qu'on veut, mais...
Là, il y a d'autres priorités.
Yes.
Ouais, j'interviens comme ça.
Oui.
Non, mais en fait, je trouve que cette situation, elle était pareille avec Saïd Targaoui, avec Vincent Cassel.
Ouais.
Et nous, en fait, on le vit vachement, au sein de nos structures, dans les associations hip-hop, etc. Et en fait, cette mixité à la fois sociale que crée le hip-hop et cette diversité, en fait, c'est, je pense que c'est des choses qu'on réfléchisse, qu'on intègre en interne, quoi. Parce que ça, c'est une réalité pour mener les projets, etc. Quand il y a des différences de situation économique, sociale, politique, etc., de racisme systémique, de violence, et que en fait finalement c'est toujours effectivement les blancs, les privilèges qu'on intègre, et moi en tant que femme, en tant que blanche aussi, dans le collectif, nous c'était vraiment des problématiques qui nous concernent, qui nous touchent en fait. Voilà, c'était juste ma petite remarque, mais du coup, fait, c'est récurrent, c'est constant, et je pense que c'est sur l'ensemble des structures hip-hop, et je pense que, alors je sais pas si à Paris, la place, il y a des temps de discussion, mais c'est des choses, en tout cas, nous, on le pense, quoi. Enfin, on les pense après, ce qu'on peut mettre en place, moi, je sais que des danseurs, des breakers et tout ça, avec qui j'ai fondé le collectif, qui ont eu des situations très difficiles, économiques et tout, et qui se retrouvent du coup à partir, à, ben, du coup, à, mais qu'on ne peut pas, nous, en tant qu'individu, porter, que la société, en fait, enfin, je veux dire, la politique, voilà, en fait, c'est, voilà, c'était la... C'est... Du coup, je rebondis juste comme ça pour dire que c'est des problématiques qui sont récurrentes, constantes, et que, alors, voilà, il faut discuter. Moi, voilà, c'est ma petit, mon petit point de vue.
Mais c'est pas un petit, d'ailleurs, point de vue, c'est un gros point de vue, et qui est, je pense, très important, et qui met en évidence, selon moi, encore une fois, la manière que chacun a d'aborder le truc. C'est pas juste une problématique politique, et c'est aussi une problématique, selon moi, humaine. Mmh. La manière que chacun a de voir la chose. À partir du moment où on l'intègre et qu'on se respecte les uns les autres, déjà, ça atténue, je dirais, l'impact et la portée. À partir du moment qu'on accepte que le voisin, peut-être, a besoin d'un coup de main ou a besoin d'un peu plus de considération à tel moment, pour moi, c'est ça qui est hip-hop et qui crée vraiment la différence. C'est la considération qu'on apporte à la problématique et pas quand on arrive et que, en fait, on écrase sans tenir compte du fait que ben, ce qui va fonctionner pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour le voisin, parce que justement, il y a cette sacro-sainte et malheureuse différence. Parce que des fois, c'est ténu et puis ça met une merde à des endroits où... Et bon, enfin, pour faire court.
Après, si... je sais pas si c'est une différence ténue, parce que les différences sociales, économiques, elles sont quand même importantes quand tu, enfin, tu parles de
quand
de
cassette. Quand je dis ténue, c'est que
ça,
c'est.
Parce que ténue, c'est-à-dire force.
Oui,
ah ouais, force.
C'est
pas
fort,
ténue,
c'est...
petit, parce que.
Ah non, non, non.
Parce que j'allais dire, c'est massif, en fait.
Mais c'est un peu ça, moi, qui fait que j'aborde ça avec un peu un petit bémol concernant. Mon camarade de l'époque, c'est que je me dis à quel moment est-ce que au lieu d'être autant l'un que l'autre, hein, autant lui que moi, dans ce rapport à l'ego, on tient compte du fait que bon bah ah ben bah, ton copain, il y a des moments ça se passe pas spécialement comme on voudrait. Et c'est là où l'humanité, pour moi, rentre en ligne de compte. Et l'humanité, c'est ça, l'aspect hip-hop, pour moi.
Et apprendre des uns des autres. Parce qu'il y a une phrase dans le livre, hein, qui dit clairement, hein, la force de ce mouvement naissant est aussi sa capacité à décloisonner la société. Sur ce coup, les gosses de Bourges s'y retrouvent aussi et ne seront jamais mis à l'écart. Moi, ce que je trouve intéressant dans le hip-hop et ses valeurs, c'est le fait de nous rencontrer les uns les autres, de rentrer les uns chez les autres et d'apprendre avec l'humilité à s'ouvrir à l'autre, et qu'on a tous nos filtres, nos histoires, et que c'est très compliqué d'avoir un avis ou un jugement clair sur quelqu'un du premier coup, parce qu'on ne sait pas où sont les uns les autres et qu'est-ce qu'ils vivent. Et je trouve que quand le hip-hop, sa force, son énergie est intéressante, c'est qu'elle nous apporte humainement et qu'elle nous aide à grandir les uns et les autres.
Alors je te l'accorde, par contre, c'est comme tout dans les rapports humains, il y a par moment des confiscation de la parole. Ça, par contre, ça questionne. Et quand ce sont toujours les mêmes qui confisquent la parole, puisque au final tu finiras bien par te rendre compte que c'est malheureusement pas les basanés, malheureusement pas les très colorés ou les grandes gueules à raison qui confisquent la parole, c'est là où ça finit par questionner. Donc c'est une phrase sur laquelle si je faisais un tome 2,
oui,
je reviendrais allègrement. Ce serait plus que de l'éclaircissement, ce serait quand même de bien connoter que finalement ce sont toujours les mêmes qui monopolisent la parole. Mmh. Et pourquoi? C'est ça, moi, qui m'intrigue.
Kenzie, il aurait aussi des choses à dire sur le sujet. Ce Kenzie s'est pas mal exprimé, notamment sur comment l'industrie du hip-hop dans les années 90 était quand même maintenue par une élite blanche.
Alors, ça c'est 50-50. Nous, est-ce que nous étions en capacité intellectuellement de garder une forme de contrôle sur ce qu'on était en train de créer, et ce que je parle culturellement parlant, hein, puisque on voit bien que maintenant c'est une industrie voilà, qui a pris tous les domaines. Mmh. On est partout. Mmh. Il n'y a pas un endroit, la musique, le fashion, la littérature,
l'information.
Le hip-hop et la culture de rue, culture de rue.
Il y a peut-être un endroit où c'est plus compliqué, c'est peut-être l'Assemblée nationale.
La politique.
Mmh, aussi vite, quoi.
Ah, mais c'est même pas de pas aussi vite, c'est que c'est comme tout, c'est très très dur. on va dire que les autres ne se laissent pas infiltrer. On veut le regarder un petit peu comme ça. Mais ouais, de toute façon, c'est chaud et ça reste des trucs qui restent de l'ordre de... C'est pas juste lié à cette culture, ce sont des problèmes qui sont liés à l'humanité, voilà, en général. Et comment est-ce que réellement, vraiment, on a envie d'avancer? Et moi, ce que je retire de tout ça, c'est que il me semblerait qu'il y a quand même des gens qui ont intérêt à ce que tout le monde n'ait pas accès à tout. Donc la notion de partage est très relative pour une certaine tranche de personnes. Et si je pousse mon raisonnement et que je développe la chose, je dirais que, on va dire que l'oligarchie, je vais pas rentrer dans des trucs comme ça, mais je dirais juste, parce que je l'ai entendu et que ça vraiment ça me touche, c'est que l'argent des riches est souvent... ou quasiment tout le temps teinté de la sueur des pauvres. Donc eux, pour gagner de l'argent, il faut que les pauvres suent. Ça en dit long, quoi. Alors qu'il y en a pour tout le monde. Mais s'il y en a pour tout le monde, comment se fait-il qu'il y en a qui en manquent?
Il y a un reportage en ce moment sur Arte en trois volets qui s'appelle Désobéissance sociale et aborde ce point de vue et notamment comment les riches déstabilisent les pays politiquement.
Alors les pays riches, mais alors on finit
pas
sur...
C'était même pas les pays riches, ils vont plus loin et disent attention, les riches.
Merci.
Clairement.
Voilà, il n'y a pas les pays. Voilà.
Et comment, dans l'information, on nous fait croire que certaines déstabilisations sont dues, alors que derrière, ça se passe autrement. C'est en trois volets, ça parle notamment du Chili. C'est
eh ben, je vais le regarder, ce reportage.
Je me permets un petit peu de conclure, parce qu'il y a des choses qui se passent encore derrière cet après-midi.
Ouais.
Christelle, j'aurais bien voulu que tu...
On prend d'assaut la FNAC.
Christelle, j'aurais bien voulu que tu te présentes, s'il te plaît.
Du coup, moi, je suis Christelle et je représente le collectif C'est Nous. On tente de monter un centre source hip-hop, culture et droit. Donc, on travaille sur les luttes contre les discriminations, les relations relations police-population, amendes abusives contre l'identité discriminante. On a une permanence d'accès au droit. Et puis, du coup, on a tout un lieu. On a réussi à avoir un lieu il y a 3 ans sur la correspondance, qui est un nouveau tiers-lieu à la MC2. Et du coup, il y a de la danse hip-hop toutes les disciplines. Donc, si vous voulez aller danser, allez-y. Et puis là, du coup, vu que c'est un centre ressources et qu'on a vu que Solo était dans les parages et que, nous, l'objectif, c'est de faire connaître la culture hip-hop, ses discussions, ses réflexions, et s'aimer un peu sur le territoire. Donc il nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation et puis du coup ce petit échange à News FM. Et du coup là on se retrouve, je sais pas quelle heure il est, on se retrouve à 12h si vous voulez venir manger avec nous. C'est convivial, informel, comme à la maison, comme on dit. Et vous pouvez venir discuter avec lui. Je pense qu'il a des bouquins aussi, si vous voulez faire des dédicaces, si vous avez déjà acheté son bouquin.
Si vous ne l'avez pas, j'en ai.
Voilà, il en a aussi. Et vraiment, alors c'est gratuit, c'est entrée libre. Et
mais
puis,
pas le
coup,
bouquin.
Non, pas le bouquin, je ne sais pas combien il est. Il est à 21 euros.
Non, allez, à 20 balles. Allez.
Voilà. En tout cas, déjà, vous pouvez venir le rencontrer parce que c'est vraiment quelqu'un.
C'est un personnage.
Voilà, dans le milieu du hip-hop. Et venir discuter. Il y aura en modératrice Camille, qui est une big girl d'ici. Yeah. Et puis voilà, on va essayer d'animer ça correctement et de bien vous accueillir, donc vous pouvez venir. Et après, à 15h, il sera à la FNAC à Grand Place. Donc voilà.
Ouais.
Je sais pas, tu veux dire quelque chose?
Ouais, venez nombreux. On distribuera des petits bonbons. Et... non, je déconne.
Merci énormément, Solo,
merci
de ta présence dans le locaux de News FM, radio urbaine de Grenoble et tournée vers les quartiers populaires. Donc ça nous fait vraiment énormément plaisir.
Mais merci à vous de m'avoir reçu. Je me rends compte que voilà, que même 45 minutes, c'est pas assez, quoi.
Ah bah j'aurais tellement de choses
à dire ou à aborder.
Ah ouais.
Pareil, là, on est rentré direct dans l'aspect politique des choses et ainsi de suite. Bon, c'est pas que ça, c'est plutôt l'aspect humain, de ramener les choses à la bienveillance et vraiment à l'humanité, quoi. L'humain d'abord, le reste après, quoi. Voilà.
Yes, I. Merci.
Merci.
News FM, la radio culture urbaine de Grenoble. 1, 2, 1, 2.